on est aujourd'hui le mardi, 20 Iyar ainsi que le 20 mai. Et le cours sera aujourd'hui pour l'élévation de l'âme de Yaakov ben Avraham Kohen, ainsi que pour la Rifoua Shelema de Yosef Alain ben Julie Gozala, ainsi que pour la Rifoua Shelema de Rachel Rina Bat Sara. C'est coincé là-bas, Bat Sara. Simcha, c'est bon. Et donc, voilà, on revient sur notre cours qui termine l'histoire du roi David. À chaque fois, je dis qu'on termine, mais on n'arrive pas vraiment à terminer, on piétine. Mais on finira bien par terminer parce qu'effectivement, c'est vraiment les deux, trois derniers cours. De toute façon, l'histoire de David est terminée. Maintenant, comme on a expliqué, ce qu'on est en train de lire, c'est finalement le début de l'histoire du roi Salomon, qui est encore lié à la fin de l'histoire de la vie de David, mais c'est plus vraiment l'histoire de David. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, un cours relativement soft. On va surtout lire, parce que tout ce qu'on peut dire a déjà été dit. On a comptabilisé, on a plus de 100 cours qui ont été donnés sur le roi David. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même énorme. Ça fait pratiquement 150 heures de cours sur le roi David. Et donc, Baruch HaShem. Et donc, on va surtout lire aujourd'hui, avec un bref rappel. Donc, David est en train de quitter ce monde et à la différence de son aïeul Yaakov qui a mérité quand même sur 175 ans de vie, il a mérité quand même 17 dernières années de joie, de tranquillité, de repos, les seules années que Yaakov appellera les années de sa vie, Vayechi Yaakov, il a vécu 17 ans sans tsarot, sans souffrance, avec ses enfants, ses petits-enfants, bon c'est vrai en Égypte, mais au moins sans que personne ne cherche à lui faire la peau. David n'a pas eu cette chance. 70 ans de vie, 70 ans jusqu'à la dernière seconde de souffrance. Donc il n'a pas eu cette chance, il est mort, épuisé. Comme on le sait, il s'est refroidi, son sang ne coule plus dans ses veines, il est épuisé. Et donc, on ne le laisse même pas mourir tranquille, puisque explose une dernière révolte entre ses enfants, les dernières heures de sa vie. Il va devoir réunir ce qui lui reste de gouttes de sang qui coulent encore dans ses veines pour agir et mettre Salomon à la place de Adoniaou. Donc on était arrivé à cet endroit-là. Adoniaou se dit, mon père, bon, il est complètement sénile, complètement déjà dans un autre monde. Il ne va même pas se rendre compte de ce qui est en train de se passer. Et il décide donc de se nommer, avec l'appui, bien sûr, des plus grands dignitaires d'Israël, on va reparler un petit peu de ça, Yoab, chef d'état-major, Eviatar, Kohen Gadol, le grand prêtre, et donc toute la crème de l'établishment juif, une grande partie de la crème, pas la vraie crème, la fausse crème, bien sûr, parce que dans le monde, il y a toujours la fausse crème, celle qui donne plein de cholestérol, et la vraie crème, mais la fausse crème a toujours meilleur goût que la vraie crème, et donc c'est pour ça que les gens, d'accord, choisissent toujours la mauvaise crème. En tous les cas, Adoniaou présente sa mauvaise crème pâtissière. Tous les juifs cholestéroleux le suivent. Et en ce qui concerne le 100% naturel, c'est-à-dire Nathan le prophète, le Créti et le Pléti, ça veut dire vraiment les fidèles serviteurs de David, qu'on appelle Créti ou Pléti, et ainsi que Tzadok à Cohen, le futur Cohen Gadol, qui n'était pas encore, qui va être nommé justement à cette occasion par David et Salomon, qui va être nommé futur Cohen Gadol. Donc la véritable élite d'Israël, ce qui n'est pas l'établishment, puisque l'établishment n'est jamais l'élite, la vraie. Et donc celle-là est mise complètement de côté par Adoniaou, qui sait très bien qu'ils ne vont pas le suivre, puisque eux ils cherchent le vrai, pas le faux. Et voilà que tout Israël, voyant que les plus grosses têtes d'Israël, en particulier le chef d'état-major, en particulier le grand prêtre, sont avec Adoniaou, tout le monde est en train de suivre Adoniaou. Donc Nathan se rend compte de ce qui est en train de se passer, pas le nôtre, le prophète. Nathan est en train de se rendre compte de ce qui est en train de passer. Tout de suite, il dit à Bathsheba d'aller voir David. On ne sait pas si ça va réussir, puisque lui, de toute façon, il est agonisant, il est déjà dans le coma pratiquement. Et est-ce qu'on va arriver à le réveiller pour qu'il prenne la décision ouverte de nommer Shlomo à la place d'Adoniaou? Personne ne sait vraiment ce qui va se passer. On était arrivé à ce passage-là et on lit. Ve'ata, c'est Bathsheba qui est en train de parler à David, elle est déjà devant lui. Ve'ata, Adonia Meler, donc toi, mon maître, le roi, sache que tous les yeux d'Israël, je traduis directement, tous les yeux d'Israël sont fixés vers toi. Ils attendent quelle décision tu vas prendre, parce que le Péléès, comme vous le savez, que Nathan avait déjà dit clairement qu'il avait reçu une prophétie, et personne ne doutait à cette époque-là, comme j'avais dit dans le dernier cours, on n'était pas encore à l'époque des rois corrompus qui ne croyaient pas ou qui faisaient semblant de ne pas croire aux prophètes et qui les poursuivaient et les tuaient. À l'époque du roi David, ce que dit Nathan, il n'y a aucune remise en cause. Donc c'est ça le Pélé. Nathan avait déjà dit que ça serait Shlomo. En plus, tout Israël l'avait entendu. Donc comment Adoniaou arrive avec tout l'établishment à se faufiler entre les maillons et à essayer de devenir roi? On va reparler bien sûr de ça. En tous les cas, comme tout le monde avait entendu la prophétie de Nathan, les gens du bout de l'œil, tout en suivant Adoniaou, dirigeaient leur regard vers le palais pour voir si David allait cautionner ou aller s'opposer. Et donc, mi yeshev al kissé Adoni Ameler, tout le monde attend de savoir qui finalement va s'asseoir sur le trône après toi. Et donc, elle continue, elle lui dit, toi maintenant, Baruch Hashem, tu vas bientôt te reposer enfin, tu vas rejoindre tes pères, et qu'est-ce qui va se passer? Moi, ve'aiti ani ubni Shlomo chataim, on va être considéré, si tu ne prends pas position, on va être considéré par tout Israël comme des fauteurs. On continue, on va voir le commentaire tout de suite. Pourquoi dit le Radak? Pourquoi on va être considéré comme des fauteurs? Imlo yebni meler. Si c'est pas mon fils qui devient roi, Shlomo, galou yavon yelanu. Tout le monde dira, mais vous voyez bien, c'est à cause de la faute. Yomru, ils diront, kimipne avon shenim tzabi. À cause de la faute qu'on a trouvée en moi, ou ben, chez Nolad Mimini, et dans l'enfant qui est né de moi, lo et alomelura, c'est à cause de ça qu'il n'y a pas eu la royauté. Et en plus de ça, Yesh Mefarshim, les commentaires rajoutent et diront, ça sera aussi une atteinte à ton propre kavod, parce que les gens diront, si finalement David, au dernier moment, n'a pas nommé Shlomo, c'est que d'une certaine manière, il considère que lui aussi, pas seulement Bathsheba et son fils, mais lui aussi a fauté. Alors, on va revenir sur cette notion-là dans quelques instants, mais on voit donc que finalement, cette vieille histoire de la faute, entre guillemets, avec Bathsheba est remise sur le plateau. Et donc, c'est ce que craint Bathsheba. Si c'est pas Shlomo qui est roi, ça va remettre en évidence le fait que je suis une femme débauchée, que je suis une femme interdite, que tu as tué mon mari, que tu es un homme adultère, que cet enfant est un bâtard, enfin toute l'histoire qui va ressortir. On a déjà expliqué qu'elle n'était ni interdite, qu'il n'a pas tué son mari et que Shlomo n'était pas un bâtard. Mais entre la vérité et ce que les gens disent, comme on le sait, il y a toujours un abîme. Surtout lorsque la vérité s'habille elle-même d'habits flous et incertains, comme souvent et surtout dans cette histoire de la lignée messianique. Comme vous le savez, tout le problème de la lignée messianique, c'est qu'elle passe par des situations, par des phénomènes tellement bizarres, tellement douteux, tellement flous, qu'on ne sait plus trop sur quel pied danser. Un père avec ses filles, pour toute la lignée qui va mener à Ruth, Lot et ses filles. Un homme avec une prostituée, pour toute la lignée qui va amener la lignée masculine qui va amener Peretz, je fais allusion à Yehuda avec Tamar, qui n'était pas une prostituée, mais qu'il prenait pour une prostituée, la conversion de Ruth, etc. Donc, venant d'un peuple où on ne savait pas trop si les hommes ou les femmes pouvaient se convertir ou non. Donc, tout est toujours tellement, tellement flou, tellement, tellement bizarre, que finalement, ouvrez-la vous-même. C'est difficile à ouvrir. Que finalement, on peut d'une certaine manière comprendre pourquoi Israël ne savait plus sur quel pied danser. Alors, malgré tout, il se pose une question qu'on va essayer de comprendre. Très bien, on a des doutes, on ne sait pas, c'était une faute, c'était pas une faute. Jusqu'à aujourd'hui, la quasi-totalité du monde pense effectivement que David a fauté. Une grande partie de notre peuple qui n'étudie pas pense aussi que c'était une véritable faute. et pas tout le monde ne connaît les finesses de toutes les explications que nos maîtres donnent et que j'ai expliquées dans ces cours, mais peu importe. Quoi qu'il en soit, on a la prophétie de Nathan. On a la prophétie de Nathan qui a dit clairement que Shlomo bincha, que Shlomo ton fils, règnera après toi. Donc, comment qu'on peut aller à l'encontre d'une prophétie? Comment c'est possible de remettre en cause une chose comme celle-là?
Ah, j'ai une petite question. Oui. Shlomo, c'est celui qui devait hériter naturellement de la royauté? C'est-à-dire, c'est celui...
Justement.
Pourquoi il vient poser cette question alors que Dafka, ça ne devrait pas venir revenir à
comment,
elle?
Comment on va le voir? Parce qu'il y a la prophétie et parce que David avait juré à Bathsheba. Ah. David avait juré à Bathsheba que ça serait... On va le lire quand même.
Quelle page nous
sommes? On est à la page Yud, dans un livre normal. Et...
Verset.
Oui, mais je ne lis pas tous les versets. Après, on est le verset 22, 20, 21, 22, etc. Regardez, un peu plus loin, toujours avec Bathsheba, donc Vaishava Améler, et le roi jura, et Vayomer, là on est dans le verset 29, hein, je ne vais pas dans les versets les uns après l'autre, sinon on a pour une semaine à tout lire. Vaishava Améler, Vayomar, le roi jura et dit, Chai Hashem, je jure sur le Dieu vivant, Asher Padait Nafshi Mikol Tzara, lui qui a sauvé mon âme de tous les malheurs qui sont tombés sur moi depuis toujours, qui kasher nishbatilar, que comme je t'ai déjà juré, c'est ce que je voulais vous montrer, comme je t'ai déjà juré, Bashem, au nom d'Hachem, Elokei Israël, le Dieu d'Israël, les morts, et je t'ai déjà dit, ki Shlomo bener yimlor achara, et que c'est Shlomo ton fils qui régnera après moi, ken esse ayom azé. Aujourd'hui, je vais le concrétiser. Et après, on verra, donc, il appelle tous les gens importants du royaume qui n'étaient pas du côté de Adoniaou, de prendre son fils, de le mettre sur son cheval, de l'asseoir sur son trône, d'abord de l'amener au Méachiloir, à ce ruisseau, et de le oindre là-bas, etc. On va voir tout ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire « comme je t'ai déjà juré » Le Radak explique. « I askiralo » Shvua trila dirtiv adoni atanishbata bashem elokecha la matecha. Comme on le sait, que effectivement, quand elle est venue le voir dès le départ, j'ai pas lu ce verset-là, mais elle lui a rappelé dès le départ qu'il avait déjà juré. C'est le verset 13. On reprend le verset 13. J'avais pris le cours de ce matin un peu plus loin. Quand elle est venue le voir, et donc la première chose qu'elle lui dit. Elle lui dit, Adoni Améler, le verset 13, Nishbata la matecha, tu as pourtant juré à ta servante, c'est pas servante à matecha, une femme c'est pas une servante, à celle qui est à ton service, les morts qui Shlomo bener yimlor achara, tu m'as déjà juré, Veu Yeshev al qui sait que c'est lui qui sera sur mon trône, reste que dit le Radak. Nishbata la matecha, je commence à répondre à ta question, pourquoi il a eu besoin de lui jurer? Ça suffit pas de lui dire ton fils règnera après moi. Pourquoi un serment? Yodea aya Nathan velama nishbala. Pourquoi il a eu besoin de jurer David à Bathsheba? Amrou, parce que nos maîtres expliquent kikshemet ayeled, lorsque le premier enfant de cette union est mort. Rappelez-vous que il y a eu un autre enfant avant Shlomo, puisqu'elle a été enceinte du premier rapport et est né un enfant qui est mort jeune, qui est mort à quelques semaines après sa naissance. Amra Bathsheba, lorsque cet enfant est mort, le premier, Bathsheba dit à David, Ayeled met mipne avon, c'est évident que cet enfant est mort à cause de notre faute, à toi et moi. Et elle lui a rajouté, Afilu yeli mimcha ben shel kaima, même si après on a un autre enfant, toi et moi, et que cet enfant vive, Yavuzu oto echav, tous ses frères vont l'humilier. Mipne shebati elecha ba'avon mitra, parce qu'ils diront, bon, mais tu es l'enfant de cette mauvaise femme. Velo ratzta l'izakeklo, elle a demandé le divorce. Elle a dit à David, ça suffit maintenant la casse, on a fauté, on a eu un enfant qui est mort, je ne veux plus rester avec toi. Et qu'est-ce qu'a fait David? À ce moment-là, il lui a juré qu'il y a ben sheyelo, que l'enfant qu'ils auraient ensemble, donc Shlomo, Mimena, Rishona, le premier enfant qu'il aura avec elle, Yimloch Acharav, c'est lui qui régnera, Ve'amarla, et en plus il a rajouté, et ne crois pas que je te dis ça uniquement pour te consoler ou que je prends sur moi une chose finalement aussi énorme de décider que l'enfant qui n'est pas l'aîné, qui en plus vient d'une union douteuse, d'un mariage douteux, je décide de mon propre chef que cet enfant sera roi, sache que de toute façon ça m'a été confirmé par Nathan. Maintenant, essayons de comprendre ce qui se passe. Donc, effectivement, et Shlomo avait toutes les raisons de ne pas être roi. Il n'est pas l'aîné, il est l'enfant d'un mariage extrêmement douteux. Et finalement, on voit que même Bathsheba ne sait pas exactement où elle en est. Puisqu'elle-même dit, d'après ce commentaire, que le premier enfant est mort à cause de la faute. Mais on a déjà expliqué, on va le répéter en 30 secondes, que quoi qu'il en soit, il n'y a pas eu faute. Puisque, comme on le sait, dans les armées du roi David, aucun homme ne pouvait aller au combat s'il ne donnait pas d'abord un guet à sa femme, de peur d'être porté disparu, de peur d'être pris en captivité et que la femme ne pourra pas se remarier parce que son mari, soit on n'a pas de preuve qu'il est mort, soit on sait qu'il est vivant, mais il restera 30 ans en prison. Elle est là, à quel âge elle a? Elle a 18 ans, 19 ans, toute sa vie elle va rester, elle ne pourra pas se remarier. Donc pour éviter ce genre de drame que malheureusement on vit aujourd'hui dans notre propre pays, je n'arrive pas à comprendre d'ailleurs pourquoi, je comprends pourquoi, mais disons que ça aurait été tellement plus facile de l'instituer, cette loi qui prévalait à l'époque du roi David, si nos soldats mariés partaient en guerre en donnant d'abord un guet à leur épouse, de nombreux drames seraient évités dans le pays. Puisque si Chas v'Shalom il ne revient pas, porté disparu ou fait prisonnier, bon, ben, la femme est libre, elle peut se remarier si elle veut. La femme de Ron Arad aura passé toute sa vie sans pouvoir se remarier. Malheureusement, que Dieu ne plaise, je ne la critique pas, mais vraiment qu'à Dieu ne plaise, mais je lui dis pour vous comprendre, c'est pas une femme religieuse. Donc évidemment qu'elle a été avec d'autres hommes, mais d'un autre côté, elle est mariée. Donc ça fait que cette situation la met en faute, la pauvre, alors qu'elle est pas fautive, elle est innocente. Qu'est-ce que vous voulez, de demander à une jeune femme qui a perdu son mari à 20 ans de rester célibataire jusqu'à la fin de sa vie? Donc c'est une injustice absolument incroyable. Si on avait institué cette loi-là, son mari, avant de partir en mission, lui redonnait un guet, lui aurait dit « Sache, ma chérie, si je ne reviens pas, tu seras libre de te remarier », elle aurait pu se remarier, avoir des enfants qu'elle n'a pas pu avoir, parce que quoi qu'il en soit, elle ne voulait pas avoir de nouveaux enfants, parce qu'ils n'auraient pas été, ils auraient été considérés comme bâtards. Et donc, ça a fichu sa vie en l'air. Donc à l'époque du roi David, tout soldat donnait un guet à sa femme, avec condition. Si je reviens, le guet est nul et non advenu. Si je ne reviens pas, le guet est effectif. Remarie-toi.
Elle fait pas partie des...
Comment?
Je sais pas, la femme de Renard, elle fait pas partie de ceux qui le renvoient bien. Que...
Non.
Non.
Jamais de la vie. Mais non, justement, parce que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas de preuve qu'il est mort.
Ben, tout le reste aussi.
Ah non. Tous les cas de Rav Ovadia, c'était des cas où il a statué, ils sont morts. Jamais un Rav va statuer si... Il va pas dire que la femme est libre si le mari est vivant.
Il a dit quoi?
C'est ça.
Il a fait sous le coup de témoignage, je crois, non?
Il a pris beaucoup de risques, Rav.
Bon, c'est un autre sujet. Mais ici, Ron Arad, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas s'il est vivant ou s'il est mort. Donc, même un prophète n'aurait pas le droit de libérer la femme. C'est pas... Donc, on revient sur notre sujet. Donc, en tous les cas, Bathsheba a été libérée, puisque son mari n'est pas revenu, son mari est mort. Donc, par rapport à l'union entre David et Bathsheba, il n'a pas été avec une femme mariée. Il était avec une femme qui était en possession d'un guet, d'un acte de divorce. Et son mari n'est pas revenu, donc le guet était effectif. L'assassinat de son mari, on en a déjà tellement parlé que ça me fatigue de le redire, tout le monde a compris de la manière la plus simple que ce n'est pas un assassinat, il est mort au combat. David l'a fait mettre en première ligne, d'accord? Mais nos enfants aussi sont mis en première ligne par les officiers de notre armée. On ne va pas, si jamais ils tombent, qu'à Dieu ne plaise, accuser nos officiers d'avoir tué nos enfants. C'est ça une guerre, il faut bien qu'il y ait qui soient en première ligne. Ce n'est pas les soldats juifs qui ont tiré sur son mari. Il est dit clairement qu'il a reçu une flèche des ennemis qui étaient sur la muraille. Donc, que tu regardes comme ça ou comme ça, il n'y a pas eu faute. Alors, où est la faute? La faute est qu'il y a, comme on le sait, la loi stricte et il y a le comportement. Il y a ce qu'on appelle le comportement moral d'un homme. Et que parfois, techniquement, mécaniquement, selon la loi rigoureuse, tu n'as pas fauté, mais selon l'aspect plus moral, plus spirituel, d'accord, ton comportement n'est pas digne d'un homme comme toi. Donnons un exemple dans la vie de tous les jours aujourd'hui. Est-ce que toute personne qui n'est pas condamnée par un tribunal est forcément quelqu'un de juste? Non. On peut être un escroc, une crapule, mais d'après les critères mécaniques, bon, techniques de la loi, tu es techniquement innocent. Maintenant, sur le plan moral, voilà. Maintenant, c'est très intéressant ce que je dis, pas parce que je dis, mais parce que même aujourd'hui, des millénaires après, on assiste au même phénomène que je suis en train de vous expliquer. Qu'est-ce qui se passe quand très souvent un homme politique, ou un homme politique par exemple, est jugé innocenté d'après la loi, mais d'un autre côté, après viennent toutes sortes d'organisations qui, elles, vont voir l'aspect plus moral et vont dire « Très bien, la loi n'a pas pu faire la preuve de sa faute. » Mais d'un autre côté, un homme qui, quoi qu'il en soit, a sur lui de telles accusations, même s'il s'en est sorti, même s'il n'a pas pu faire des preuves qui sont pénales, il ne pourra malgré tout pas jouer le rôle et avoir la représentation qu'il a ou qu'il voudrait avoir, parce que sur le plan moral, ça ne se fait pas. Alors aujourd'hui, on sait très bien que dans le monde d'aujourd'hui, les politiques se foutent royalement de l'aspect moral des choses, mais à l'époque du roi David, en tous les cas, en ce qui concerne un personnage comme le roi David, si sur le plan moral, il y avait faute, il se considérait responsable, même si sur le plan pénal, il n'y avait pas faute. Parce que c'est toute la différence entre un vrai dirigeant et un charlatan. Un charlatan s'arrange pour toujours s'en sortir au niveau de la vitrine, mais le dirigeant authentique, d'une manière générale, l'homme authentique, lui, il ne se sent pas jugé par les hommes qui, eux, n'ont entre les mains que l'outil mécanique. L'homme véritable se sent jugé par Hachem. Et même si je suis innocent face aux hommes, je sais que je suis coupable face à Hachem. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Donc, David et Bathsheba s'étaient toujours considérés coupables face à Hachem. Toujours. Et quand on est coupable face à Hachem, on doit donc faire teshuva. Et la teshuva, tu n'es pas sûr et certain si elle va être acceptée ou non. Et là, on ouvre quelque chose de nouveau dont je ne vous ai jamais suffisamment parlé. Cette notion que je vais vous apporter maintenant, j'en ai souvent parlé, mais pas dans le contexte du roi David et de Bathsheba. Rappelez-vous, c'est des cours que je fais souvent à l'occasion de Yom Kippour ou Rosh Hashanah, qu'on a une sorte de contradiction dans nos textes en ce qui concerne la teshuva, le retour, la réparation, et la validation de la teshuva par Hachem. D'un côté, on a un texte dans le Talmud qui dit que même si un homme a fauté toute sa vie, et que quelques minutes avant de mourir, sur son lit de mort, il se repentit très très sincèrement, et du fond de son cœur, il n'y a que Hachem qui sonde les cœurs, évidemment, ce n'est pas la photo, et que du fond de son cœur, il fait teshuva, et que Hachem sait que son repenti est sincère, mochlim lo al kol avonotav, on passe une éponge sur toutes ses fautes. Donc, pas mal. D'accord ? Toute une vie de fautes, un repenti sincère, Hachem pardonne. Bon, c'est une gratuité qu'on n'aime pas trop, nous, les Juifs. Hein. Ce qui est gratuit, c'est pas juif. Nous, on aime bien payer. Mais bon, surtout, qu'est-ce qu'on a payé dans l'histoire ? Mais bon, c'est un texte du Talmud. Mais d'un autre côté, heureusement, il y a un texte un peu plus juif, bien de chez nous, qui dit le contraire. Il dit, quand un homme a fauté et qu'il fait teshuva, quand pourra-t-on dire que sa teshuva est agréée s'il se retrouve dans la même situation et qu'il ne faute pas, selon les mots du Talmud, avec la même femme au même endroit, et il se retient. Seulement à ce moment-là, sa teshuva sera agréée. Ce qui veut dire que c'est très compliqué. Et s'il se retrouve plus jamais avec la même femme au même endroit, ou s'il se retrouve 30 ans après, quand il a déjà plus de dents, il est tout moche, et puis elle, elle est affreuse, il se retrouve par hasard dans le même hôtel, d'accord, c'est pas une teshuva. La teshuva n'est possible que si ils ont tous les deux 25 ans ou 30 ans, et qui se retrouvent dans les mêmes conditions une semaine après, un an après, quand ils sont encore dans les mêmes conditions d'expérience. En plus, c'est pas lui qui va décider. Tu t'imagines qu'il va l'appeler et dit « Allô, tu pourrais pas revenir dans ma chambre parce que je voudrais prouver au maître du monde que j'ai fait teshuva. » Ça marchera pas, puisque c'est
organisé.
Il faut ça dans tout le contexte. D'accord, avec la même agression, la même séduction, le même parfum, etc. Et que lui s'y attende pas. Or, c'est pas entre ses mains. Qu'est-ce que nos maîtres expliquent ? Une chose fantastique. Quand Hachem verra que cet homme-là est véritablement en situation de teshuva, il lui fera le cadeau, sans le prévenir, de le mettre dans la même situation. Bon, elle s'appellera maintenant Y. Mais la même situation, parce que Hachem sait qu'il ne faudra pas, et pour lui donner l'occasion de signer sa teshuva. Donc c'est un cadeau qu'Hachem lui fait. Pareil, si c'est un vol, il le mettra dans la même situation d'une poche ouverte où personne ne voit, où ça peut facilement être pris, et il ne le fera pas. Donc d'après ce deuxième texte, on voit que finalement, la vraie teshuva ne dépend pas du tout de moi. Puisque ça dépend de comment Hachem sonde mon cœur et que lui organise les événements qui sont tels que je puisse véritablement prouver. Et je ne savais même pas moi que j'étais capable de le prouver. Mais Hachem sait que je vais lui prouver que maintenant je suis à la hauteur. Ce qui veut dire qu'on le sait tous, de très nombreuses fautes qu'on a pu faire dans notre vie, et on n'a pas été forcément confronté à la même situation. D'après ce texte-là, ça prouverait qu'on n'a pas vraiment fait teshuva dans ce domaine-là. Sinon, Hachem nous aurait mis dans la même situation. Si quelqu'un vole, et qu'après a véritablement un regret profond, sincère, mais que d'un autre côté, il ne sera plus jamais tenté par un vol, d'après ce texte-là, on n'est pas sûr qu'il a fait teshuva. Donc c'est un deuxième texte qui contredit véritablement le premier texte. En plus, ce deuxième texte est d'autant plus compliqué que la teshuva donc ne dépend pas de moi. Ça dépend d'Hachem. Alors comment je vais savoir si mon repentir est sincère ou non ? Nos maîtres expliquent, et vous l'avez déjà entendu, que la différence est la suivante. Il y a deux phénomènes dans la teshuva. Le regret et la réparation. Et ça n'a rien à voir, le tikkun. Quand je me suis disputé avec toi, d'accord ? Pas avec toi, mais quand je suis avec toi, d'accord ? Et que j'ai levé la main, pas sur toi, mais sur toi, d'accord ? Et que on s'est disputé et je t'ai blessé. Même si après, je te demande le plus sincèrement possible pardon, et que tu vois que mon pardon est tellement sincère que tu ne peux pas résister et que tu me pardonnes, d'accord ? La marque que tu as sur le visage, elle ne va pas disparaître pour autant. Elle t'accompagnera encore pendant des années, peut-être toute ta vie. Et toute ta vie, quand tu te regarderas le matin dans la glace, tu diras « Waouh, quel coup j'ai pris à ce moment-là. » D'accord ? Parce que le regret et le pardon, ce n'est pas encore la réparation. Et c'est ça ce que disent nos deux textes. Le premier texte qui dit que même 5 minutes avant de mourir, si tu fais une teshuva sincère, Hachem te pardonne, il te pardonne. Mais est-ce que tu as réparé pour autant ? La réparation, c'est encore autre chose. La réparation n'est faite que si tu es dans la même situation et que tu ne fautes pas. Là, ça répare ce que tu as cassé. Parce que le pardon, tu l'as déjà eu depuis longtemps, le pardon. Mais la réparation, voilà. Maintenant, c'est exactement ce qu'on voit ici.
À quoi ça sert, alors ?
Comment ?
Il a pardonné, donc ?
Il a pardonné ?
Il ne sera pas accusé en haut ?
Non, alors, il a pardonné, ça veut dire qu'il y a un certain style de punition, entre parenthèses,
moins grave,
que tu n'auras pas. Mais par contre, la réparation, tu devras la faire. Donc la réparation de ton âme, la réparation peut-être en revenant dans ce monde, etc., etc. Tu comprends ? La réparation, c'est ce qu'on appelle tout le tikkun après la mort ou en revenant dans ce monde. Le tikkun, tu ne pourras pas t'en passer. Le tikkun est obligatoire. Ce qui est cassé doit être réparé. Et tous les pardons du monde ne suffiront pas. C'est l'absolu contraire du christianisme en ce sens-là. La grâce, le pardon, ça n'existe pas chez nous. Heureusement. Il n'y a pas de réparation sans travail de la personne impliquée elle-même. Personne ne peut réparer pour moi. Ni même Dieu peut réparer pour moi. Pourquoi ? Parce que c'est l'essence même de l'existence et de la dignité humaine. Si je ne répare pas, où est ma dignité ? C'est trop facile. Donc, ça c'est les deux textes. Maintenant, revenons à David. David, évidemment, avait obtenu le pardon. Mais est-ce qu'il avait obtenu la réparation ? Vient Nathan et dit, ton fils Salomon sera roi. Comment Nathan et Bathsheba avaient compris « sera roi » ? Ils l'avaient compris exactement dans le sens de la réparation. Si Shlomo n'a aucune chance de devenir roi, pourquoi ? Parce qu'il est le fils du couple qui, sur le plan moral, a fauté. Ce couple a demandé pardon et bien évidemment le pardon était sincère et bien évidemment le pardon a été accordé. Mais est-ce que réparation il y a eu ? De la même manière que je viens d'expliquer que d'après le Talmud, quand va-t-on savoir que c'est réparé si je suis dans la même situation et que je ne faute pas ? Eh bien, c'est comme ça qu'il faut comprendre la prophétie de Nathan. Si concrètement le fruit de votre union devient roi, ça sera le signe d'en haut comme quoi Hachem considère qu'il y a eu réparation. Bravo l'explication ! Et donc, toute leur vie, ils étaient en attente de ça. Et donc, Israël, Adoniaou et tous les autres étaient donc d'une certaine manière en droit d'imaginer, même voire d'agir pour nommer un autre roi, en se disant, mais nous, on ne va pas contre la prophétie de Nathan. Nous, on dit simplement que la prophétie de Nathan signifie que si Salomon devient roi, ça prouve qu'il y a eu réparation. Réparation, ni David ni Bathsheba sont en droit de dire qu'il y a eu, parce que ça ne dépend pas d'eux, ça dépend du signe envoyé par Hachem. Et pour l'instant, on ne voit pas Hachem réagir. Donc, qu'est-ce qu'il fait Adoniaou ? Qu'est-ce qu'ils font tous ces hommes qui étaient loin, qu'à Dieu ne plaise, de vouloir aller contre Hachem, contre ses décisions ou contre le prophète ? On ne parle pas de ça à cette époque-là, c'était tous des gens profondément et authentiquement croyant, quoi qu'il en soit, même s'ils avaient des intérêts. Mais c'était pas des voyous. Qu'est-ce qu'ils disent ? Eh bien, tout simplement, on va tester la providence. On va aller d'après la logique. Et c'est pas aller contre Hachem. D'après la logique, je réponds maintenant à ta question enfin. Est-ce que Shlomo doit être roi ? Non. Qui est le plus âgé des deux ? Adoniaou ou Salomon ? Adoniaou. Le Béchor était Avshalom, il était mort. Après Avshalom, c'était Adoniaou. Donc d'après la logique, qu'est-ce que nous dit la loi d'Israël ? La loi d'Israël dit, sauf si un prophète dit le contraire, Israël est que l'aîné des enfants devient roi. Adoniaou est en faute ? Non. Très bien. Maintenant, il y a eu une prophétie en ce qui concerne Salomon. Cette prophétie touche la réparation. On n'est pas sûr qu'il y a eu réparation. Qui prouve que papa a réparé ? Donc, on va nommer Adoniaou, qui selon tous les critères correspond, il est le fils d'une femme avec laquelle j'ai jamais eu de problème, il est le fils de David, et il est l'aîné. Si la Providence estime que David n'a pas encore réparé, eh bien Hachem s'arrangera pour nous faire un croche-pied. Et si la Providence pense que David n'a pas réparé, il n'y a que Hachem qui sait s'il a réparé ou non, vous avez compris comment j'explique ? Eh bien, si Hachem pense que David n'a pas réparé, eh bien, il va nous laisser nommer Adoniaou. Et personne ne pourra nous accuser d'avoir été contre le prophète, puisque le prophète n'a parlé que dans l'esprit de la réparation d'une faute. Et personne ne sait si elle a été réparée.
Pourquoi il vient le voir alors ?
Comment ?
Pourquoi il vient le voir alors, Bathsheba ?
Réga ! Ben oui, justement, c'est ce qu'on va voir. Réga. Et donc, il nomme Adoniaou. On voit que rien ne se passe. Qu'est-ce que fait Nathan ? Nathan dit, mais attends, c'est pas encore perdu. Nathan commence à comprendre que peut-être qu'effectivement Hachem va laisser faire, puisque David est mourant. Maintenant, vous comprenez maintenant pourquoi on a commencé toute cette histoire-là avec cette histoire de cette jeune fille pour le réchauffer. On avait déjà vu, c'est honteux, c'est pas joli, c'est pas beau, déjà le pauvre David, jusqu'à la fin de sa vie, ils vont parler sur lui, d'accord. Mais qu'est-ce que la Torah veut nous faire comprendre ? Qu'effectivement, c'est pour nous montrer la grandeur du miracle, la grandeur de la volonté d'Hachem. Comme toujours, c'est de la Yerida que tu sors la Aliyah. David était dans un état tellement catastrophique sur le plan de sa santé qu'on n'a pas trouvé un autre moyen aussi choquant que celui-là pour lui donner encore quelques minutes, quelques heures de vie. Ça, j'avais expliqué, parce que chaque heure de vie du roi David, c'est le roi David. Quoi, ses serviteurs ne savaient pas que tout le monde allait jaser derrière son dos? Quoi, même à 100 ans, il pense encore à ça, le bonhomme, parce qu'il avait 70 ans, mais d'un autre côté, il était épuisé comme un homme de 120 ans. Et tout le monde savait, mais ils ont dit qu'ils n'ont qu'à parler, ils n'ont qu'à jaser, d'accord? Chaque minute de la vie de notre roi est plus importante que tout ce qu'ils vont dire. Mais d'un autre côté, ça montre qu'il était dans un état complètement mourant. Et c'est pour ça, justement, que Adoniaou, à ce moment-là, choisit de se nommer roi, en se disant, c'est fini, la providence va laisser faire, il ne pourra plus réagir. Il n'y avait aucune chance que David, vous allez le voir tout de suite, puisse se lever, se réhabiller avec son roi, mettre sa couronne, appeler ses sarim et leur donner des ordres. Il était mourant, mort. Donc c'est une véritable résurrection. À ce moment-là, tout Israël a vu que ça y est, la faute a été réparée. Parce que comment c'est possible qu'un homme qui a encore 5 minutes était en état de réanimation avec des branchements partout, ces branchements s'appelaient Avishag, il ne tenait que parce qu'il était branché d'une manière artificielle, d'accord, elle qui était à ses côtés pour essayer de le réchauffer. Et tout d'un coup, il retrouve sa jeunesse et il commence à donner des ordres et tout, vous allez le voir. C'était donc la preuve que c'est bien la volonté d'Hachem. C'est pour ça que Hachem a laissé faire jusqu'à ce qu'on appelle Dakatishim, jusqu'à la dernière minute, pour qu'il n'y ait plus aucun de doute. Vous voyez bien comment cet homme s'est relevé. En parlant de David, c'est bien la volonté d'Hachem. Pour mettre fin, une fois pour toutes, à tout complot contre eux. Contre toute revendication en dehors de Shlomo. C'est un coup, si on peut dire, qu'a fait Hachem pour mieux placer Shlomo. Parce que si Shlomo avait été placé d'une autre manière, peut-être que les gens auraient continué à dire « Ouais, bon, ouais, d'accord, etc. » Maintenant, regardez, on continue le texte. Je reviens. Alors, maintenant, regardez. Donc, David lui dit, on est au verset 30, et vous allez voir, tout d'un coup, maintenant, David redevient le lion qu'on a connu. On oublie qu'il a 120 ans, on oublie qu'il est mourant. Il lui dit « Ki kasher nishbati lecha b'Hashem » Comme je t'ai juré, voilà, comme on l'aimait, les dernières... instants de la vie de David, comme je t'ai juré, tu verras que c'est ton fils qui va t'asseoir sur mon trône. Et Vatikot Batsheva Paim, Batsheva s'est inclinée devant lui et elle lui a dit Yehi Adoni Ameler David Leolam, c'est une haftara. Yehi Adavid Meler, que vive David, notre roi, à tout jamais. Les commentaires, c'est pourquoi elle dit qu'il vit à tout jamais, dans 5 minutes il ne sera plus là. Ça veut dire quoi? Et parce que c'est tout l'enjeu de la lignée de David qui est ici en danger. Ça veut dire que si ce n'est pas Shlomo, tout le projet davidien est mort. Ça ne peut passer que par Shlomo, parce que ça ne peut passer que par David et Bathsheba. Maintenant que Bathsheba sait que ça y est, elle a sauvé la lignée, elle dit tu vas vivre l'Éolam, parce qu'à travers tes enfants et ta lignée, on est sûr que le processus aboutira au Mashiach. Vayomer, on revient maintenant sur David, vous allez voir, tout d'un coup il s'est réveillé. Vayomer, Ameler David, qui roulait les Tzadok HaKohen? Qu'on m'amène immédiatement Tzadok HaKohen. D'accord. Oul Nathan Navi, qu'on me ramène Nathan, il va nouveau redonner des ordres. Oul Benyahu Ben Yoyoda, qu'on m'amène le chef du Sanhedrin, Benyahu, qui lui n'était pas avec Adoniaou. Vayomou Lifnaveler, ils viennent tous devant le roi. Vayomer, Ameler Lahem, le roi leur dit, Krui Machem et Tavde Adonechem, prenez tous les serviteurs de votre roi, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas partis, qui sont restés, tous ceux qui me sont vraiment fidèles et qui ne sont pas partis avec Adoniaou. Virkatev et Shlomo béni à la prida. Prenez mon cheval et mettez mon fils sur mon cheval. Veoratem oto al Gihon et descendez-le immédiatement sur mon cheval au Gihon. Gihon, c'est quoi? C'est le Méachéloir. Où se trouve la Méachéloir? Quand vous sortez du Kotel par Shara et Shpa, hein, d'accord, la seule porte par laquelle on sort, d'accord, par là où arrive l'autobus ou par l'autobus, en bas, en face de vous, donc en direction de Hebron, vous avez la vallée du Silouan, d'accord, tout le village très important de nos voisins. Tout en bas se trouve le Méachiloir, se trouve le Mikvé de David, la source de David. D'accord, on peut y aller jusqu'à aujourd'hui. Bon, il vaut mieux être accompagné parce que, comme on est en paix avec nos voisins, donc pour qu'ils nous fichent la paix, il vaut mieux être accompagné parce qu'on sait si on descend, on ne sait pas si on va pas se faire descendre. Mais on est en paix avec nos voisins. D'accord. Même pour aller faire trempette, il faut faire attention. Mais quoi qu'il en soit, ça, il ne faut pas l'enregistrer parce que. Il faut pas dire du mal de nos voisins. Quoi qu'il en soit, donc on descend, il faut connaître le chemin, mais on peut le faire avec un guide, etc. On descend tout en bas, et y a, on rentre dans une grotte, et il y a une source, qui est le Mikvé du roi David, Mea Shiloah, qu'on appelle des fois Gihon, Mea Shiloah. En fait, ce petit ruisseau s'appelle Gihon, mais on l'appelle Mea Shiloah, les eaux qui vont doucement. Les eaux qui vont doucement, c'est un petit ruisseau qui coule comme ça tranquillement à l'intérieur de la roche. Et il y a un endroit, là où il y a cette grotte, que le roi David utilisait comme migvé. C'est là qu'il se trempait, qu'il faisait son bain rituel, etc. Et donc, c'est là-bas qu'on l'a amené. Et qu'est-ce qu'on va faire là-bas? On va loindre. Regardez ce qu'il dit. Donc, vous le descendrez au Gihon, ou Machar Otosham Tzadok HaKohen. Vous imaginez comme les eaux, elles doivent pleurer. Des eaux dans lesquelles le roi David s'est trempé pendant des décennies. Et puis après, et qui après lui encore? Aujourd'hui, lorsqu'un juif, un enfant de David, veut aller se tremper dans ces eaux, il doit faire attention de ne pas se faire assassiner. Vous vous rendez compte, dans notre propre pays. Et dans notre ville en plus, c'est Jérusalem. Oui. Enfin, c'est pas grave.
Un peu pour très longtemps.
Le jour des grands comptes viendra. Alors, « Umachar otosham tzadok haKohen » Non, j'ai oublié que ça a toujours été une source palestinienne. D'accord. Et qu'en vérité, c'était le mikvé de Mahomet. Il faut être juste avec l'histoire.
Le mikvé de Mahomet. Comment? C'est le nom qui s'appelle Gihon. Aujourd'hui, quand on paye l'eau, on paye le Gihon.
Oui.
C'est le nom qu'ils ont donné à tout l'eau d'Israël.
C'est ça, la société des eaux israéliennes s'appelle Gihon. C'est intéressant. Hein.
Que de Jérusalem.
En souvenir peut-être de cette eau du roi David, la royauté de David. C'est magnifique, hein. C'est vrai, je n'avais pas fait rapprochement.
Ce ruisseau fait tout.
En tout cas, c'est cher.
Pierre.
En tout cas, ça coûte très cher.
Pierre, ouais. Comment?
En tout cas, ça coûte cher tous les mois.
Ouais. L'eau coûte cher. Ouais. Mais bon, chez mon mandat. Alors, ou ma charoto, vous le moindrez là-bas, Sham, Tzadok HaKohen. Tzadok HaKohen, c'est là que David fait allusion au fait que le prochain Kohen Gadol, ce sera Tzadok HaKohen. Et donc, Tzadok lui-même va le moindre là-bas, pour bien montrer que c'est lui le prochain roi. Venatan Anavi. Et en présence de Nathan le prophète, comme on sait, un roi se fait oindre en présence du prophète. Utkatem beshofar, et vous sonnerez du shofar en signe de délivrance, annonciateur du Mashiach, puisque c'est de cette lignée-là que va sortir le Mashiach. Donc on sonne le shofar, le signe du rassemblement des dispersés à la fin de l'histoire. Ve'amartem, et vous direz, Yehi Ameler Shlomo, que vive le roi Shlomo. Donc, on est vraiment à la fin. Va'alitem acharav, et après, tout le monde reviendra avec lui, et vous le mettrez sur mon trône. Ok. Voilà les ordres du roi David. Donc, ce véritable miracle qui vient de se produire, encore une fois, un homme qui était mourant, tout d'un coup arrive à nouveau à reprendre le volant, rediriger son pays, et dans les dernières heures qui lui restent de vivre, finalement, fait quelque chose qui va être décisif pour toute l'histoire d'Israël et du monde. De bien s'assurer que la lignée messianique ne sera pas déviée et que le projet divin puisse continuer. On continue, je saute pas mal de versets où on nous dit que les serviteurs ont fait ce que David demandait. Et on arrive maintenant au verset 20. « Vaya'alu kolam acharav » Et au fur et à mesure que les gens voyaient, au début la majorité du peuple était avec Adoniaou. Mais comme vous le savez, tous les Français étaient résistants après la guerre. Donc à partir du moment où il s'aperçoit que finalement le vent est en train de tourner du côté de Salomon, tout le monde tout d'un coup, mais non, on s'est trompé, c'était pas Adoniaou qu'on voulait suivre, c'était Salomon. Et de plus en plus de gens commencent à quitter maintenant Adoniaou et se rejoignent et rejoignent la foule qui est en train de suivre Shlomo qui est assis sur le cheval de son père. D'ailleurs, Agave, quel âge avait Shlomo?
9 ans.
Quel âge avait Shlomo lorsqu'il est devenu roi?
11 ans.
9. Il avait 11 ans. 11 ans, il est devenu roi. Il avait 11 ans, il est devenu roi, Shlomo. Et là, il a 10, 11 ans à cette époque-là.
11 ans.
Et il est, Il est devenu roi avant sa bar mitzvah. Avant la bar mitzvah, il est devenu roi. Et comme on va le voir à partir des prochains cours, pas vraiment le prochain, parce qu'on n'a pas tout à fait fini, après il y a aussi le testament que David s'adresse à son fils, il lui fait les dernières recommandations, ce sera le prochain cours, et après on aura vraiment fini avec David. Mais on le verra, donc, d'ici quelques semaines, il a commencé très 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 fort sa royauté, et il a déjà éliminé tous ses ennemis entre sa 11e et sa 12e année. À 12 ans, il n'y a déjà vu personne. On verra comment, etc. C'était les ennemis de son père.
Ouais.
Mais c'est les ennemis de son père, mais qui étaient en vérité ses ennemis potentiels à lui. On verra. Il ne les a pas éliminés à la Saddam ou je ne sais pas quoi. Il a attendu que Hachem lui mette en place, comme on verra, je ne vais pas anticiper sur les cours, mais les événements ont fait qu'il a eu des preuves certaines comme quoi il était en danger, justement à cause de son jeune âge. Ils se sont dit, on va le bouffer celui-là, en 11 ans, il va pas tenir devant nous. Et ils se sont trompés. Ils ont fait ce qu'il ne fallait pas faire et il a pu donc réagir et violemment. Mais ça, ce sera pour les prochains cours. Quoi qu'il en soit, tout d'un coup, donc Vayal Kolaam, tout le peuple maintenant, change de direction, ne suivent plus Adoniaou, mais se rassemblent derrière Shlomo. Mechalelim Bechalelim, et viennent l'orchestre, viennent les trompettes, viennent toute la fanfare, parce que ça y est, on est en train de nommer le nouveau roi d'Israël. Smechim Simchak Dola Vativakares Bekolaam. Il y avait tellement de gens qui suivaient Shlomo que... Bon, c'est une expression qui veut dire que la terre s'est ouverte de la puissance des sons et des voix et des chants et des danses qui retentissaient. Automatiquement, un peu plus loin, d'accord, Adoniaou, lui qui s'imagine que c'est lui qui va devenir roi, Vaishma Adoniaou, Adoniaou se met à entendre la voix de toute cette simra et lui au début il croit que quoi ? Que c'est le peuple qui est en train de venir vers lui pour participer à sa nomination. Il entend le shofar dans un premier temps. Il est tellement persuadé que ça le concerne lui. Il demande à ceux qui sont autour de lui, mais « Oh, je ne savais pas, merci, hein, je ne savais pas, c'est une surprise. Ils sont venus pour mon anniversaire. Je ne savais pas, je vois les anniversaires de Niaou, etc. » Mais lui, il ne sait pas ce qui se passe. Mais il est encore dans ses rêves et tout d'un coup arrive le fils de Eviatar, le fils du Kohen Gadol qui était avec lui, avec Adoniaou, et qui lui dit, il s'appelle Yonatan, et qui lui dit, tu te trompes complètement, c'est pas pour toi que ces gens-là sont en train de faire la fête, mais c'est pour Salomon, et il lui explique qu'il a été mis sur le trône, sur le cheval de son père, il a été loin par Yonatan, dans le Miachiloir, et maintenant il est assis sur son trône, et toute la fête, toute la joie que tu entends, c'est la joie de son couronnement. Il est en train d'être couronné sur le trône de son père. À ce moment-là, tous ceux qui étaient avec Shlomo, ils sont tous rappelés qu'ils avaient un rendez-vous. Ils sont tous partis. Il s'est retrouvé tout seul. Toujours comme ça. Hein? Les amis, dans un complot, c'est les amis tant que ça marche. Mais quand ça ne marche plus, il n'y a plus d'amis. Tout le monde lâche. Yoav, Eviatar, tout le monde se dit, excusez-moi, Eviatar dit, oulon, m'attend au temple, Kohel. Yoav, il dit, j'ai un briefing avec mes officiers supérieurs maintenant, surtout que personne, c'est pas comme moi, ils sont en chose, il n'y a pas de photos qui sont prises, il n'y a pas de caméra comme partout aujourd'hui dans les rues, partout, aujourd'hui où tu es, il y a une caméra, tu ne peux plus rien faire dehors. Tu es dans un hôtel, n'importe où, tu as une caméra aujourd'hui, dans un parking, bon. À cette époque-là, il n'y avait pas encore, donc, ils se disent, personne n'a pris les photos, on n'a pas encore fait venir le photographe, on dira qu'on n'y était pas, chacun s'en va. Et lui, il se retrouve seul. Qu'est-ce qu'il fait ? Là, je le lis maintenant, parce que c'est la fin. Qu'est-ce qu'il fait ? Il s'enfuit au tabernacle pour s'accrocher au Misbéa, à l'autel. Ouais, il y a une loi dans la Torah que quand quelqu'un se révolte contre le roi, s'il arrive le premier au temple, ou à l'époque au tabernacle, il n'y avait pas encore le temple, et s'accroche à l'autel, au Misbéa, le roi ne peut rien lui faire. C'est comme s'il était accroché à Hachem. Et donc, comment ?
Chat perché.
Et donc, peut-être ça vient de là. Et donc, il touche le misbéar et il se dit comme ça, Shlomo ne pourra rien me faire. Bon, Shlomo l'envoie lui faire savoir que finalement, il n'a rien à craindre, que je suis ton frère, tu es mon frère, si tu te comportes bien, je passe l'éponge. Surtout, d'après ce que je viens d'expliquer, que finalement Adoniaou n'était pas vraiment responsable et pas vraiment voyou. C'est pas Avshalom, attention, qui lui se révolte contre son père. Là, c'est un vrai voyou. Adoniaou s'est dit, il n'y a pas forcément eu réparation. Il y a eu pardon, mais pas réparation. Tant que Hachem ne prouve pas le contraire, il n'y a aucune raison que Salomon soit roi plus que moi, c'est moi l'aîné. Donc Adoniaou, sur le plan purement logique, était dans son droit. Donc Shlomo le sait. Shlomo lui dit, tu vois bien, finalement, Hachem a réagi. C'est moi le roi, on passe l'éponge, tu es mon frère, mais maintenant, comporte-toi comme il faut. Lâche le misbéar, lâche l'autel, rentre à la maison, le craclo, et c'est comme ça que cette histoire se termine. Et la prochaine fois, ça sera donc les dernières recommandations de David. David appelle son fils, il lui fait la dernière recommandation. Et en présence de son fils, après avoir donné la dernière recommandation, il ferme les yeux et il s'en va. Ça sera le prochain cours. Maintenant, on va quand même, il nous reste quelques minutes, je ne peux pas faire beaucoup, beaucoup plus aujourd'hui. Mais il nous reste quelques minutes. Finalement, essayons, parce que c'est pratiquement vraiment la fin, essayons de sortir, on pourrait dire, le dernier message. J'avais commencé le cours en vous montrant que finalement, le roi David, jusqu'à la dernière minute de sa vie, il n'a pas un moment de répit. Et finalement, on pourrait dire que toutes les catastrophes qui lui sont tombées sur la tête dans sa vie sont toutes liées à un problème, sont toutes liées au même problème finalement, le flou de sa personne, ses origines ou son comportement, puisqu'on pourrait finalement couper sa vie en deux types de problèmes. Tous les problèmes qu'il a eus parce qu'il était issu de route, donc dont la conversion n'était pas véritablement établie et reconnue par tout Israël, et ça c'est tous les problèmes qu'il a eus avec Shaoul, avec Doeg, etc., qui lui ont toujours reproché que finalement pour qui tu te prends, tu n'es pas un chez nous, etc., la France aux Français, et bon... Et donc, il a souffert énormément de ça. Et après, quand ça s'est plus ou moins calmé au niveau de ses origines, alors le pauvre, il n'a pas eu le temps de souffler, qu'il a glissé sur la peau de banane de Bathsheba, et jusqu'à la fin de sa vie, c'est plus d'où tu viens, mais qu'est-ce que tu fais ? Donc finalement, toute sa vie s'est retrouvée confrontée à des situations, deux grandes situations où on ne le comprend pas. Si on n'arrive pas à comprendre comment se fait-il que le maître du monde choisit pour premier vrai roi d'Israël un homme dont on n'est pas trop sûr que les origines sont acceptables, et même si elles le sont, pourquoi faut-il que ça passe par une conversion? Ça aurait été quand même beaucoup plus simple, elles sont quand même jolies les filles de chez nous, etc. Donc pourquoi aller choisir une jordanienne ou une Arabie saouditienne? Moab, c'est quoi? C'est l'Arabie saoudite, donc... Non, pourquoi aller chercher une fille de là-bas? En plus, on n'est même pas sûr si la conversion était légale ou pas. Et puis après, je veux dire, comme pour confirmer que ce bonhomme, il est vraiment tordu, qu'est-ce qu'il va avec? Attends, il peut se marier avec les plus belles filles du monde, il faut qu'il tombe d'Afka amoureux d'une femme qui est plus ou moins mariée. Non, attends, qu'est-ce que c'est que ce bonhomme? Donc finalement, c'est vrai que la Providence, d'une certaine manière, a mis le roi David en présence constamment de flou dont il n'est même pas vraiment responsable. Et j'explique, ou je réexplique. Le flou lié à Ruth, il n'en est pas du tout responsable. Et même le flou lié à Bathsheba, puisque rappelez-vous, c'est court, je vais expliquer ce que nos maîtres disent. Que Rehuya Aïta Bathsheba les David Meshechet Kimé Bereshit. Que depuis les 6 jours de la création, cette femme lui était destinée. C'est une parabole qui veut dire que quand il a vu que c'était la même âme. C'était mamash son âme sœur. C'était son âme sœur. Sa faute a été de ne pas prendre le temps d'attendre. Mais il sait que c'est elle. La preuve, c'est que le Mashiach sort d'elle et de lui. Alors qu'il avait 17 autres femmes. Moins problématiques. Donc, il s'est précipité par excès de certitude. Mais finalement, Hachem lui a ouvert les yeux. Il a vu que c'était son âme sœur. Bon, il a été impatient de s'unir à son âme sœur. Très bien, mais c'est quand même son âme sœur. Comme on a expliqué, il n'est pas tombé amoureux de son corps, il est tombé amoureux de son âme. Donc, pourquoi Hachem le met dans des situations constamment compliquées qui font que, et c'est ce que je veux rajouter, que pas seulement c'est compliqué pour Israël en général, c'est compliqué même pour sa propre famille, même sa propre famille ne le comprend pas. Avshalom ne l'a pas compris, Adoniaou ne le comprend pas. En s'entendant, certaines de ses femmes ne le comprenaient pas non plus. Michal, la fille de Shaoul, combien de fois elle l'a critiqué, combien de fois elle lui a dit « Tu me fais honte, je regrette la maison de mon père », elle dit à son mari. Il a constamment été critiqué, combattu, incompris par Israël en général, par ses plus grand et fidèle serviteur, par ses grands amis comme Achitophel qui était Sakhavruta. Achitophel et lui, pendant des années, ils ont étudié les secrets de la Torah ensemble. Quand il se levait à minuit, il allait lui-même, le roi David, taper à la porte d'Achitophel et dire « Viens, viens mon ami, viens mon frère, on va étudier ensemble le Zohar. » Enfin, le Zohar, compris, il n'y a pas de Zohar à cette époque-là. Sa femme, ses fils, constamment il est dans une situation de flou inimaginable. Je ne vais rien dire que je n'ai pas déjà dit, mais simplement je le redis pour terminer le cours et vous laisser une question ou deux. La Torah veut nous montrer la chose suivante. Le processus messianique passe par les souterrains les plus inattendus de l'histoire humaine. Celui qui s'attend à pouvoir voir et comprendre, eh bien il cherchera encore longtemps à voir et à comprendre. Le processus messianique, il s'appelle entre autres Herzl, Ben Gurion, etc. Le processus messianique, il s'appelle toutes les choses que, avec des yeux logiques et spirituels et moraux, on n'arrive pas à comprendre. Quoi, ça sort de là, ça passe par là. C'est ça ce que la Torah veut nous faire comprendre des millénaires à l'avance. Le processus messianique passe par des chemins les plus bizarres, les plus flous, les plus torturés, les moins prévus. Et même lorsque ça se passe, on n'y croit pas encore.
Oui, mais David, c'est du cachet à 100%.
Comment ?
David, c'est du cachet à 100%.
C'est du
cachet. Au final.
Non, je viens de m'expliquer que sur le plan moral, là, oui, faute avec Bathsheba. Non. Sur le plan moral, c'était une grave faute. Ce n'est pas une faute halakhique, ce n'est pas une faute pénale, mais c'est une faute, ben non, c'est évident. Ouais. La Torah elle-même dit que c'est une grosse faute sur le plan moral. Donc, oui, c'est des flous, c'est des bavures, c'est des... Et oui, absolument. Absolument. Et pourquoi Hachem veut ça? Parce que le modèle thoraïque est le modèle de l'histoire. Et Hachem veut nous faire comprendre que celui qui s'attend à un dévoilement messianique clair, limpide, bien de chez nous, tout est clair, Non. Le dévoilement messianique passe par des chemins inattendus, inacceptables, imprévus, révoltants parfois, choquants, etc. Et c'est pour ça que David en est le microcosme le plus absolu. Et jusqu'à la fin de sa vie, dans sa propre famille, il n'est pas compris. C'est-à-dire, traduisez, décryptez dans le langage de l'actualiste ce que ça veut dire. Même dans sa propre famille, il n'est pas compris. Ses plus proches ne le comprennent pas. Ça veut dire que même lorsqu'on aura devant les yeux le processus messianique, on ne le verra pas encore. On sera encore en train de se dire « oui, mais ». L'histoire de Adoniaou qui essaye de se placer alors qu'il y a une prophétie claire que ce ne sera pas lui mais Salomon, nous permet de comprendre que c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Que même lorsque le processus est évident qu'on est en train de vivre la délivrance d'Israël, il y a encore des gens qui ne sont pas nécessairement des voyous, loin de là, qui se posent la question, mais vous êtes sûr? Oui, c'est bien ça? Non, peut-être que non. Et si on essayait autre chose? Tout est déjà écrit, tout est déjà prévu. Et le fait de le savoir n'arrange pas nécessairement les choses, puisque la Torah nous a prévenu que même lorsque tout sera clair, se lèveront encore des Adoniaou qui auront des doutes. Transposé par rapport à aujourd'hui, vous avez tout compris. Même lorsque tout est clair, il y a encore des Adoniaou qui se posent la question. Vous êtes sûr que c'est bien de ça qu'on parle? Mais on ne peut rien y faire, c'est le processus. Pourquoi Hachem a voulu ça? Parce qu'il faut que jusqu'au dernier moment, le processus messianique soit caché, comme j'ai expliqué dans tous les cours sur Yom Hatzmaout. Il faut que le processus soit caché pour que justement le mauvais œil ne le mette pas en danger. Le mauvais œil des nations, le mauvais œil des accusateurs dans le ciel, peu importe. Plus c'est caché, et plus ça a des chances de réussir. Et quand Hachem sera comme maintenant, c'est irréversible, il enlèvera les voiles, et tout le monde dira « c'était devant nos yeux et on n'a rien fait pour empêcher. » Mais ça sera déjà trop tard. Parce que Yehi Ameler. Y a-t-il des questions? Olivier, bravo.
Mais vous n'avez pas parlé du shrout de...
J'ai beaucoup parlé, mais c'est vrai, je n'ai pas parlé de tout, Olivier.
Le shrout de Shlomo, en fait, est-ce qu'il avait un shrout de... À part le fait qu'il soit issu de Bathsheba et du roi David, Est-ce qu'il avait un Sroud?
Ah, bah, ouais, c'est toute l'histoire de roi Salomon qu'on va commencer après.
Est-ce qu'il a l'action du roi David, etc. Donc ça, c'est important aussi.
Alors, tu t'imagines combien on va parler de Shlomo quand on va enfin y arriver. Donc cette question, elle sera répondue. Qu'est-ce qu'avait Shlomo? Il y a cette fameuse histoire où il a eu ce rêve. On lui a demandé de choisir entre la grandeur qu'il a choisi, la chorma, plus que la richesse ou le pouvoir ou la force, etc. On va parler de Shlomo, bien sûr. Surtout, on va avoir Bezrat Hashem de nombreux cours sur la différence entre David et Shlomo, entre la complémentarité aussi entre David et Shlomo. Là, c'est...
Non, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de causalité. C'est-à-dire, c'est pas parce que il y avait un fils descendant du roi David le premier, finalement, qui devait accéder à la royauté. C'est-à-dire que rien n'est jamais tracé, en fait, définitivement.
Chez David?
Oui.
Ah, c'est que des surprises chez lui. Que des surprises. La vérité, même sa propre élection en tant que roi est une surprise. Pourquoi? D'où on le sait? Rappelez-vous ces vieux cours. Enfin, ces vieux, ils ont pas si vieux que ça. Quand Hachem envoie le prophète Shmuel, qui est considéré comme étant aussi grand que David et Aaron réunis, il voit les enfants défiler, il était sûr que c'était le premier, le deuxième. Et quand arrive David, lui-même, il dit quoi? C'est lui? C'est même le plus grand des prophètes après Moshe n'a pas compris pourquoi lui. Il était persuadé que si déjà dans cette famille, ça doit être l'aîné.
Mais alors est-ce que ça veut dire que...
Ça veut dire que David, c'est toujours la surprise.
Est-ce que ça veut dire que l'action, intervention de Dieu ou du prophète Nathan peut remettre ou peut contrecarrer une décision purement alachique? Parce que d'après la loi, ce que vous avez dit, finalement, ça devait être le premier fils qui devait succéder.
Le prophète ne peut pas aller contre la loi en ce sens... d'aller contre la loi et de faire une faute. Mais quand la Torah dit que c'est l'aîné, c'est pas dans le sens que c'est un commandement comme faire Shabbat ou manger kasher. C'est une suggestion. Jusqu'à preuve du contraire, c'est l'aîné. Mais s'il y a une recommandation différente, on a dans l'histoire énormément de cas où c'est pas l'aîné qui est devenu roi. C'est-à-dire que la Torah dit, jusqu'à preuve du contraire, si l'aîné est apte à hériter de son père, c'est l'aîné. Ce qu'on appelle le Bechor. Mais je te signale que toute la Torah est fondée sur le fait que c'est précisément jamais l'aîné qui a été le succédeur. Caïn et Abel, Ishmaël et Yehuda, Yaakov et Esav, etc.
Mais je crois qu'on lit cette Haftara, en fait, il me semble, d'après mes souvenirs, au moment où on lit la paracha concernant justement la bénédiction d'Israël pour
Nachon, Esav et Yaakov. Absolument, absolument.
On voit en fait qu'il y a aussi un changement.
Mais bien sûr, dans la Torah de Moshe, on voit qu'il y a une interversion et que c'est rarement l'aîné qui finalement continue. Oui.
Le prophète, même quand on lui a présenté David, il a demandé la confirmation à Dieu. Et avec les comment on appelle les
Ephraud là. Oui, Orib et Toumim.
Voilà. Et c'est là où.
D'accord. Ben Shmuel n'y croyait pas.
Voilà.
Comment?
Il avait quel âge le roi David à ce moment-là?
Quand il a été oint, parce que devenir roi c'est beaucoup plus tard. Oint, je ne sais pas, il avait 16-17 ans. Quand il a été oint par Shmuel dans la maison de son père, après il y a encore eu quelques années jusqu'à ce que. Toute l'époque, il est parti 7 ans à Hebron aussi, etc. Il est devenu roi à l'âge de 30 ans. De roi sur tout Israël à l'âge de 30 ans, et il a régné 40 ans, jusqu'à 70 ans. Mais oint en cachette, si on peut dire, par Shmuel, je ne sais pas, il approchait la vingtaine, et encore, je ne pense pas. Oui.
Juste une question. C'est des notions qu'on a beaucoup parlé déjà dans d'autres podcasts. Quand on parle de la mort de l'enfant, premier enfant qu'il y a eu avec Bathsheba et David, donc l'enfant mort après quelques semaines, là, la première question qu'elle se pose, c'est est-ce que ça pourrait être une coïncidence par rapport à la faute?
C'est directement lié à la faute, la mort de cet enfant.
Oui.
Il n'y a aucun doute.
Oui, mais justement, mais nous, on a une vision un peu différente des choses. On se dit... Je parle au niveau maintenant, concrètement aujourd'hui, quand il nous arrive des choses et qu'on se dit, c'était par rapport à nos fautes, on a beaucoup de rabbins qui nous disent, ça n'a rien à voir, on ne peut pas aujourd'hui savoir.
Si non, mais là c'est marqué clairement, si c'est dit clairement, c'est dit.
Alors est-ce que c'est vrai aussi pour nous aujourd'hui, quand il nous arrive des choses, on peut se dire, ah,
c'est tout a un sens, mais tu t'imagines que nous, qui on est nous pour inventer, pour oser dire c'est à cause d'une faute et de quelle faute, et ça, nous on n'en sait rien.
Non, tout le contraire aujourd'hui, justement, ce n'est pas une punition, il n'y a pas de punition sur... telle ou telle faute qu'on aurait pu faire.
En ce qui concerne le roi David, c'est dit clairement dans la Torah. C'est clair. Écrite et orale. Maintenant, ce qui est dit sur le roi David n'est pas un modèle pour chacun d'entre nous qui ne sommes pas le roi David, qui ne sommes pas au niveau du roi David, qui n'ont pas un prophète ou un verset pour nous expliquer ce qui nous arrive. Donc aucun d'entre nous n'est en droit et n'a le droit de dire c'est à cause d'eux. Ça s'appelle du charlatanisme. D'accord, évidemment. Mais c'est évident d'un autre côté que tout a un sens. C'est des Gilgoulim, c'est des réincarnations, c'est ci, c'est ça, etc. Mais ça, j'en sais rien.
Oui.
Je suis obligé d'arrêter. Je suis obligé d'arrêter, absolument. Je suis obligé d'arrêter. Et donc, on arrête pour aujourd'hui. Et on reprend demain de ma cour de Chumash. Et je tiens donc à préciser, comme je ne l'ai pas encore dit officiellement, qu'il y a cours demain uniquement. Et après, il n'y aura pas cours ni jeudi, ni dimanche et ni lundi. Ni jeudi, ni dimanche et ni lundi. Les cours reprendront mardi prochain. Ça sera très dur, je sais, mais vous ferez un effort pour vous passer devant.